Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC, la boîte à souvenirs.
Marc Madiot.
Bonjour à tous. Je m'appelle Marc Madiot, j'ai 61 ans. Je suis un ancien coureur cycliste professionnel, passionné de mon sport, patron de mon équipe La Française des Jeux, devenue aujourd'hui Groupama FDJ depuis plus de 20 ans. J'ai marqué la France et les Français avec mes deux victoires sur Paris-Roubaix, mais aussi et surtout par mes larmes et mes coups de gueule à l'arrivée de mes coureurs. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Marc Madiot. Salut Marc.
Salut.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, ta passion pour le vélo, le champion que tu étais, le patron d'équipe et l'homme que tu es devenu. Vaste programme, ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort, dessus, un mot, une date, un moment que tu vas nous raconter, évidemment. Avant de débuter cette boîte à souvenirs, Marc, comment tu te sens ?
Bien.
Pas du tout stressé ?
Pas du tout.
Tu as envie comme ça de regarder dans le rétroviseur ?
Oui, oui, oui. Non, j'ai pas de...
Pas d'appréhension ?
Ah, aucune.
Alors, si tu n'as pas d'appréhension, on débute avec toi cette boîte à souvenirs. Tu peux tirer le premier papier.
Ok. Paris-Roubaix.
Paris-Roubaix. On peut dire, Marc, que c'est la course de ta vie. Si on doit résumer Marc Madiot en tant que coureur cycliste, c'est Paris-Roubaix. On se trompe ou pas quand on dit ça ?
On se trompe pas trop.
Paris-Roubaix. En trois temps dans ta carrière, le premier, 14 avril 1985.
Au plus fort de la course, là où Paris-Roubaix se durcit, Marc Madiot pénètre en tête dans la tranchée de Waller-Sarrambert, où il perdra pourtant du terrain. Après 160 km, on ne distingue déjà plus les maillots, ni les coureurs, mais Cyril Guimard sait qu'un Madiot est aux avant-postes. Marc Madiot qui laisse pourtant échapper le triple vainqueur de l'épreuve, l'italien Francesco Moser. Moser qui souffre face au vent, en compagnie de Deroy, et qui sera rejoint dans le dernier secteur pavé. Kelly et Greg LeMond sont lâchés, Madiot file vers l'un des plus beaux succès convoités par un coureur cycliste.
Paris-Roubaix, c'était déjà une course mythique que tu voulais absolument remporter ?
C'est une course qui m'attirait. Pourquoi ? Comment ? Sans doute parce que c'était une course violente, un peu vieille époque, un peu inscrite dans le temps, qui fait appel à des qualités mentales. On ne va pas là-bas par hasard et on ne gagne pas par hasard. C'est le style de course qu'il faut anticiper, préparer, mentaliser et qui ne va que vers ceux qui l'ont vraiment voulu.
Voilà. Tu aimes te faire mal à la gueule sur un vélo. C'était ça aussi ta doctrine.
Me faire mal, pas plus que les autres, mais j'ai toujours eu la détermination d'aller au bout de ce que j'avais envie de faire. Ça ne m'a jamais abandonné, même quand c'est difficile, même quand ça paraît impossible. Une fois que j'ai quelque chose dans la tête, je lâche plus. Voilà.
À ce moment-là, ça fait 5 ans que tu es professionnel. Tu as 26 ans. Tu avais rendez-vous avec ton destin ce jour-là ? Tu en étais persuadé ?
Ah oui, complètement. J'avais déjà terminé 5e 2 ans auparavant. Je l'avais gagné en amateur et quand je me suis retrouvé dans le final de cette édition 85, j'ai, à un moment donné, je me suis dit « Aujourd'hui, tu vas savoir si tu peux ou si tu ne peux pas. Si tu peux ou si tu ne peux pas gagner un truc comme Paris-Roubaix. Si je n'y étais pas parvenu, j'aurais sûrement trouvé les bons arguments ou les bonnes excuses après l'épreuve. Mais au fond de moi, j'aurais eu la réponse. Et la réponse, j'ai senti que je pouvais l'avoir de manière favorable. Enfin, je ne me suis pas trop posé de questions, ça ne va pas le faire. Je me suis trouvé en situation de mettre la balle au fond et la balle a été au fond. Voilà, c'était un peu ça.
On a entendu d'ailleurs le commentateur hein, qui parlait de Cyril Guimard, qui était le patron d'équipe. Tu étais dans la même équipe que Bernard Hinault également. Et on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Paris-Roubaix, le deuxième temps, c'est 6 ans plus tard, le 21 avril 1991. Tu gagnes de nouveau Paris-Roubaix dans ta carrière. Et là, tu vas vivre l'un des plus beaux moments de ta carrière, mais ça n'a rien à voir avec la course, ce deuxième Paris-Roubaix en 91. Tu ne sais pas de quoi je parle.
Non.
Luis Ocaña.
Ah oui, effectivement, Ocaña, qui était mon idole, qui l'est resté et qui l'est encore. Après ce Paris-Roubaix, il est venu à la maison, chez moi, en Mayenne, 20 ans après Orsière Merlette, qui était en 71. Il est venu 20 ans après à la maison, à la demande de mon club de supporters qui voulait me faire un cadeau. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai sans doute eu de toute ma carrière.
Tes copains donc de chez toi te font un cadeau, te disent « viens, rentre, t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Et là, il y a Luis Ocaña.
Ouais, le rideau s'ouvre et il est là.
Il est là, Luis Ocaña. Tu parlais d'Orsière Merlette en 1971.
Oui.
C'est évidemment le cycliste qui t'a fait vibrer. On va se rappeler qui était Luis Ocaña.
Il regarde la ligne d'arrivée, il la voit déjà, il voit presque la banderole, il va franchir le panneau Merlette qui est là-bas. Ocaña sait qu'il a gagné, Ocaña sait qu'il est en jaune, Ocaña croit déjà à la Cipale, mais ce Tour de France tient ses promesses, c'est le suspense, le tour rebondit avec un Merckx à la limite de l'abandon.
Luis Ocaña, fantastique vainqueur de cette étape, une étape qui nous rappelle les exploits de Koblet, de Coppi, de Merckx, d'Anquetil. Une grande journée pour le sport cycliste, une grande journée pour Luis Ocaña. Derrière, on devrait voir apparaître à plus de 4 minutes, 5 minutes peut-être Van Impe et à près de 10 minutes le groupe Merckx.
Coureur cycliste incroyable qui va remporter le Tour en 1973. Et c'est quelque part lui qui t'a donné l'envie du vélo. Et là, il est là ce jour-là. Après ce Paris-Roubaix, il est là dans ton salon.
Oui, et le salon est toujours à la maison. J'ai gardé le canapé dans lequel il a pu s'asseoir.
Ça fait quoi de parler avec son idole quand on est soi-même un coureur cycliste?
Bah, je le connaissais déjà d'avance, hein, puisque comme j'étais pro, j'avais eu l'occasion de le rencontrer. Il savait qu'il était mon idole, mais avec Luis, j'ai eu une relation particulière, spéciale. Souvent, quand on est jeune, on a des idoles, et puis parfois, on a la chance, comme moi, de rencontrer son idole, mais parfois, on peut aussi être déçu. Et je n'ai pas été déçu par l'homme qu'était Luis. Voilà. J'ai eu affaire à un monsieur plein de pudeur, plein de bienveillance. Et le fait qu'il vienne à la maison était pour moi un signe exceptionnel de reconnaissance. Voilà, il y avait un lien entre nous. J'ai toujours eu du mal à m'exprimer en face de lui, mais en même temps, on se comprenait bien. Et quand il a eu une équipe, il m'avait proposé de rejoindre son équipe. Je n'y suis pas allé parce que je ne ressentais pas Luis comme directeur sportif. Donc, je ne suis pas allé dans son équipe. Ça n'a rien enlevé à notre relation et quelque part à ce lien qui existe et qui existait entre nous. Il y avait un truc assez magique avec Luis.
Tu l'avais déjà vu courir ?
Non. C'est très spécial. Orsière Merlette, j'ai vu les premières images pendant le confinement. Je n'avais jamais vu des images de l'étape d'Orsière Merlette avant le confinement du mois de mars. Et je ne l'ai jamais vu courir. J'ai eu la chance de voir Merckx, Poulidor, Gimondi et tant d'autres dans les critériums d'après Tour à l'époque. Et Luis, je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Et un jour, j'étais sur le Tour de l'Avenir. Après dîner, j'étais en train de prendre l'air, on était en montagne, j'étais assis sur les marches et d'un seul coup je vois Ocaña arriver en vélo. Comme on se connaissait, il s'arrête à ma hauteur, mais je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais sur le vélo là, à cette heure-ci ? » Il était, je ne sais pas, genre 21h, 21h30. Il dit « Marc, la semaine prochaine, je dois aller en Italie faire une gentleman avec Merckx. Tu comprends, il ne faut pas que je sois en petite forme. » Et il était toujours dans le duel avec Merckx, en fait. Et il m'a raconté quelques anecdotes qu'il avait eues avec Merckx. Et voilà, c'était toujours un moment de plaisir que de le croiser, de le rencontrer. Et quand il est venu à la maison en 91, pour moi, c'est le sommet de ma carrière, ça c'est sûr.
Le sommet de ta carrière, ce n'est pas de gagner deux fois le Paris-Roubaix, même si évidemment c'est un grand moment, c'est d'avoir Luis Ocaña dans son salon.
Imagine, je sais pas, t'es footballeur, t'es fan de Zidane ou de Pelé, et le personnage en question vient chez toi pour te saluer, c'est énorme.
On se raconte énorme. Quoi quand on est comme ça assis dans le canapé que tu as gardé, tu nous l'as dit, hein, on se raconte quoi avec Luis Ocaña, des banalités ou on arrive à quand même se parler de la vie?
On raconte beaucoup de banalités, mais en même temps, on est heureux d'être là. Je pense que Louis était sincèrement heureux d'être là, et moi encore plus. Donc, il y a un lien qui est toujours resté entre nous, quoi. Quand on se croisait, on savait ce qu'on pensait de l'un de l'autre et ce qu'on avait entre nous, quoi.
Alors, tu es à tel point fan de Luis Ocaña que ton fils, Mathis,
oui,
porte en lui quelque chose d'Ocaña.
Oui.
C'est Jennifer, ta femme, qui va nous le raconter.
Déjà, bon, fallait se mettre d'accord sur le prénom parce qu'il fallait que ça commence par un M pour que les initiales soient MM et idéalement MA. Le truc simple déjà. Bon. Donc on s'est mis d'accord sur Mathis et on s'est mis d'accord sur le deuxième et le troisième prénom comme toute bonne famille qui va déclarer ses enfants à la mairie. Le petit nez, je lui dis va à la mairie, il a déclaré les prénoms et tout, donc il y va. Puis il revient avec l'affiche et puis je vois Mathis, comme on avait décidé, Christian, Marcel, Louis. Ah, je lui dis mais c'est quoi Louis? Il me dit Louis Ocaña. Mais je lui dis, mais attends, mais c'est pas possible ça. Bon, du coup, tu me dis, c'était évident quand même, Louis.
C'était évident quand même de donner.
Moi.
De ne rien dire. On a toujours rêvé ça en tant qu'homme, parce que c'est nous qui allons déclarer les enfants à la mairie, de mettre un autre prénom. Tu as réussi à le faire, Marc.
Je l'ai ajouté à la liste.
Et ça s'est bien passé avec Jennifer finalement?
Oui, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Mon fils demande un peu de temps en temps. Mais maintenant, il le sait pourquoi.
Oui, il est jeune, hein, il a 10 ans. Et il te demande encore, il aime bien ce prénom, Louis? Il est content de l'avoir, tu sais pas?
Il n'a pas exprimé d'avis. Il a pris en compte.
En tout cas, bravo.
Je pense qu'avec le temps, il appréciera.
Oui, bah forcément, il est aussi fan de son papa déjà. Donc, si tu aimes Luis Ocaña, il va aimer Luis Ocaña. Mais en tout cas, je retiendrai cette anecdote pour mon troisième enfant, peut-être s'appellera Zinedine.
Voilà.
Merci beaucoup, Marc. Le troisième temps de Paris-Roubaix, on a vu 1985, on a vu 1991 avec donc cette rencontre avec Luis Ocaña dans ton salon. Il y a aussi 1994 pour Paris-Roubaix où tu vas arrêter ta carrière sur cette fameuse course. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
C'était le dernier grand rendez-vous de ma carrière. J'étais dans ma dernière saison. C'est la dernière course que j'ai vraiment anticipée et préparée pour être au top. Et puis, c'était gras, humide. À un moment donné, je chute. Je sens que je chute. Et au moment que je vais toucher le sol, je sais que je vais me faire mal. Je le ressens. J'ai la sensation que je vais me faire mal. Et effectivement, je me suis fait mal puisque j'ai eu une fracture du trochanter. Je l'avais déjà eu quelques années auparavant, donc je savais quelles étaient les conséquences. Donc, je ne sais pas, je me suis assis sur le rebord de la haie, du fossé. Et puis j'ai tranquillement attendu l'ambulance et j'ai croisé le regard de Philippe Bouvet ce jour-là.
Qui était un journaliste de l'équipe.
Qui était un journaliste de l'équipe et qui faisait Radio Tour dans la voiture, la première voiture rouge qui suit le peloton. Et le lendemain, il faisait son papier dans l'équipe, il avait dit, et c'était sans doute la dernière course de Madio. Et il ne s'était pas trompé.
Il l'avait vu. Philippe Bouvet, nous l'avons retrouvé et il se souvient très bien de ce moment.
Oui, je m'en souviens très bien. C'était donc en 1994, effectivement. Il sentait la fin venir, mais il avait encore un rêve, c'était Paris-Roubaix. S'il y avait une course dont il pouvait encore rêver, c'était celle-là, parce que pour gagner Paris-Roubaix, il faut l'aimer beaucoup. Lui, il l'aimait passionnément. J'ai vu sur le bas-côté Marc Madio, qui était tombé. Et nos regards se sont croisés, effectivement, et j'ai gardé ce souvenir très fort, parce que j'ai compris qu'il avait compris à cet instant que c'était fini, non seulement la course, mais sa carrière. Marc Madio, qui avait beaucoup donné à Paris-Roubaix, et Paris-Roubaix lui avait beaucoup donné aussi, était tombé, finalement, au sang d'honneur. La boucle était bouclée, c'était un signe du destin, certainement.
Alors, tu te fais mal? Et tu vas à l'hôpital. Oui. Et là, forcément, ton patron, il y a même ton frère qui vient à l'hôpital. Comment ça se passe?
Très bien. Dès que je suis arrivé à l'hôpital, à la sortie de l'ambulance, j'ai demandé est-ce qu'il y a une télévision où je peux regarder la course. On m'a regardé, les infirmiers m'ont regardé un peu bizarrement. J'étais en tenue de coureur, j'étais dégueulasse. Et j'avais mal, mais je me suis allongé sur le lit. Et puis, il y avait une télé, j'ai vu la fin de la course.
Alors, ton frère était inquiet, hein, ton frère qui court avec toi, Yvon, on en reparlera, était inquiet. Et toi, tu prends ça bien, finalement.
Ah oui,
tu sens que ça va être la fin, mais t'es en paix.
Ah, j'étais en paix complètement et ma carrière était terminée. Je me suis dit, bon, voilà, Paris-Roubaix, quelque part, t'as tout donné. Aujourd'hui, il est en train de tout te reprendre. C'est l'heure. C'est fini. Terminé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et je l'ai bien vécu. J'ai pas eu de nostalgie. J'ai pas eu de tristesse. J'étais en paix complète avec moi-même. J'ai pas eu de blues. Il y a rien. C'était. J'étais bien.
Philippe Bouvet sur cette fin de carrière de Marc Madiot.
Je dirais qu'au-delà de son palmarès, au-delà de son doublé dans Paris-Roubaix. De son titre de champion de France, d'autres victoires. Marc Madiot, il essaie, dans son sillage, il essaie des émotions. Et je crois que c'est ça qui marque tout autant qu'un palmarès. Donc ce Paris-Roubaix, c'était vraiment une fin en soi. Mais je dirais que, étant donné le coureur qu'il a été, étant donné la marque qu'il a laissée sur Paris-Roubaix, et ben finalement, c'était un bel endroit pour en terminer avec cette carrière qu'il avait si bien embrassée.
Tu adhères totalement ?
Complètement, à 1000%.
À 1000% sur cette fin, sur Paris-Roubaix, évidemment. Comment ne pas évoquer Marc Madiot et le Paris-Roubaix ? Nous sommes toujours avec toi, Marc, dans cette boîte à souvenirs. Tu peux tirer un nouveau papier ?
1er juillet 1984.
Tu te souviens de cette date ?
C'est une étape du Tour, je pense.
Oui, on est en juillet. Forcément, tu connais bien les dates du Tour de France. Pourquoi cette date ?
Ça doit être l'étape que j'ai gagnée à Louvroy, dans le Nord.
Ça fait 4 ans que tu es professionnel. Deuxième étape entre Bobigny et Louvroy. Et il se passe ça.
Et devant, dans le dernier kilomètre, se produit l'échappée décisive. Groupant Madiot qui attaque Andersen, Roche et Rogiers. Madiot audacieusement a démarré à 400 mètres de l'arrivée et l'emporte devant Kim Andersen, Stephen Roche et Roger Rogiers. Marc Madiot savoure son premier succès dans le Tour. Madiot, premier du Trophée des Grimpeurs, vainqueur d'une étape à Tirreno-Adriatico, cinquième de Paris-Roubaix et tout récemment vainqueur d'une étape au Tour de l'Aude. Un beau champion.
Un beau champion ?
Je sais pas. Un bon coureur sans doute.
C'est ta seule victoire sur le Tour de France, mais ça reste pas un moment incroyable dans ta carrière.
Non.
Pourquoi ?
Parce que c'était une étape d'une course à étapes. Voilà.
Et les courses à étapes, même le Tour de France, ça t'a pas plus fait vibrer que ça ?
Si, mais j'étais plus dans le one shot, le truc d'excitation totale d'une course d'une journée. Moi, j'avais envie d'aller voir les kermesses, par exemple, en Belgique. Ce qui à l'époque, était le béaba de quatrième zone du vélo. Mais c'était le cyclisme profond. C'était les racines du vélo, là-bas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup aller en Belgique, parce que, quelle que soit la course... Moi, j'ai connu l'époque où dans les courses en Belgique, on frappait à la porte des gens. Vous arriviez sur une kermesse. Une kermesse, on s'engageait de manière individuelle. Déjà, faut avoir je suis mayennais, donc il fallait déjà prendre la voiture, prendre ton vélo, ta paire de roues, monter en Belgique, te débrouiller tout seul. Tu arrives sur la kermesse, tu frappes à la porte d'un villageois pour demander si tu peux te changer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de salle omnisport. Donc, tu frappais à la porte des gens pour rentrer chez eux, pour pouvoir te changer et éventuellement te laver. Donc, suivant qui tu étais et la reconnaissance que les gens avaient pour toi, tu allais soit dans le garage, soit on te fermait la porte, soit tu allais dans le garage, soit tu pouvais éventuellement être invité à boire le café et à manger les petits gâteaux à l'intérieur de la maison. Donc, quand tu es jeune coureur, que tu arrives là-bas, que tu vas faire les kermesses, c'est là que tu apprends ton métier parce qu'il y a des mecs qui ont du poil aux pattes, qui sont inconnus, qui te font mal à la gueule. Qui que tu sois. Et Le but du jeu dans ce style de course, c'est de gagner une prime ou de gagner un peu d'argent pour amortir tes frais de déplacement, parce que l'équipe ne te remboursait pas tes frais de déplacement pour aller là-bas. Donc ça demandait un investissement individuel extrêmement, extrêmement fort. Et j'ai progressivement, j'ai fait ma place là-bas. Si je frappais à la porte d'une maison, on me reconnaissait. Et je finissais toujours par boire le café et manger les gâteaux. Et puis, j'ai eu la chance de partager le vestiaire avec des gens comme Freddy Martens, entre autres. Moi, Freddy, c'est un coureur fantastique pour moi. C'était un coureur d'exception. Et puis, c'est un bon gars, quoi. Il n'a pas eu la fin de carrière qu'il aurait mérité, mais c'était un bon gars. Et se retrouver quelque part, tout à fait par hasard, dans une maison, à boire le café et à se changer, notamment en compagnie de Freddy Martens, c'est fantastique.
C'est ça que tu aimes, c'est le cyclisme profond et on le comprend, les paillettes, le strass du Tour de France, c'est moins ta came.
Moi, je suis plus sensible, à un Kurn Bruxelles Kurn ou à n'importe quelle course en Belgique, c'est clair, ou à un Volk en Belgique, c'est la première course de la saison, c'est une excitation totale. Après, le Tour de France est indispensable, il est nécessaire. C'est la vitrine du cyclisme dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin du Tour de France pour quelque part faire le reste. Mais à titre personnel, j'aime bien le Tour parce que les émotions et les résultats qu'on peut avoir sur le Tour, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Mais si je devais uniquement choisir un endroit, machin, là j'irais plutôt dans le Nord et en Belgique. Moi, comme je dis souvent, si on me dit demain tu ne peux plus habiter en France, où est-ce que tu veux habiter ? J'habite dans les Flandres, en Belgique.
Les courses d'un jour, Yvon Madio, ton frère, ton petit frère,
oui,
va nous le raconter.
Les courses d'un jour, le transcendait. Paris-Roubaix, on n'en parle même pas, parce qu'il était dans un état, je ne vais pas dire second, mais sa personnalité, il était extrêmement concentré, voire même un petit peu agressif dans les jours qui précédaient Roubaix, et c'était un peu comme ça, même il savait aussi se préparer, être en forme et donner sa pleine mesure sur les courses d'un jour, ça c'est sûr. Hein. Un championnat du monde, il était toujours présent dans les championnats du monde. Le championnat de France, il a gagné aussi. Je pense que les courses d'un jour, c'est vraiment... Il se sublimait, mais je pense que ça aurait pu être un grand coureur du Tour aussi. Peut-être qu'il avait moins l'envie, mais s'il avait eu la même détermination, la même approche, je pense que ça aurait pu être un coureur de grand tour.
Ah, un coureur de grand tour. Qualité pour gagner le Tour, Marc ?
Qualité, je pense pas, non. Oui, faire un top 5, oui, sûrement, peut-être.
Ah, c'est déjà une belle performance, non ?
Ouais, mais c'est, je sais pas, je...
Dans l'ombre de Bernard Hinault, c'était pas un problème.
Ah non, pas du tout.
Tu pouvais être plus fort que Bernard Hinault ?
Non, pas du tout.
Cyril Guimard va nous dire si tu avais les qualités pour gagner le Tour, quand même.
On peut comprendre que tu peux ne pas être très motivé sur le Tour de France. Tu avais d'autres coureurs. Bon, tu avais l'exemple d'un Gilbert Duclos-Lassalle, qui, comme par hasard, a gagné deux Paris-Roubaix aussi. Est-ce qu'à un moment, le manque de capacité de rêver à... n'est pas lié à la prise de conscience qu'il manque un petit quelque chose, il te manque un petit quelque chose pour aller gagner le Tour. Il pouvait le gagner, il avait les qualités pour le gagner, mais dans des circonstances de course particulières.
Tu es d'accord aussi avec ça ?
Oui, complètement.
Bon, voilà pour cette page Tour de France. En tout cas, on leur a compris une victoire d'étape tout de même dans ta carrière. C'était donc en 1984. La boîte à souvenirs avec Marc Madiot, on est toujours sur RMC. Un nouveau papier avec toi, Marc.
Le passionné.
Le passionné, c'est le terme qui te caractérise le mieux ou pas ?
Oui, ça fait partie du... Oui.
Ouais. Alors pour ta femme, Jennifer, c'est peut-être pas assez fort, le passionné.
C'est-à-dire que passionné, à la limite, c'est faible comme mot, parce que c'est même pas qu'il est passionné, c'est que c'est sa vie, en fait. Quand on dit « Ah ouais, il est passionné », c'est sûr que de le voir comme ça, c'est marrant, c'est sympa pour les gens qui aiment le sport... Mais en fait, c'est quelque chose qui construit toute sa vie. Il ne peut pas ne pas penser vélo, il ne peut pas couper. Ce n'est même pas de la passion. Je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas ce qu'il y a de plus de passionné, parce qu'il y a des gens qui ont des passions, mais qui, à côté de ça, aiment autre chose. Lui, il pourrait y avoir que le vélo et pas autre chose à côté, ça lui irait.
Elle n'a pas tort.
Une passion dévorante.
Non, ça ne me dévore pas. Non, 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 non. Non, 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 je considère que je suis quelqu'un d'extrêmement chanceux. J'ai la chance de faire et de vivre ce que j'aime. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en plus, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc c'est fantastique. Fantastique. Moi, je suis un béni des dieux.
Alors, le grand public te connaît pour tes coups de sang, pour tes coups de folie, que ce soit dans la victoire, dans la défaite, l'un des moments les plus difficiles. On parlait de ta carrière de coureur cycliste, on va faire un petit saut de puce avec ton rôle de patron de l'équipe, la Française des Jeux, Groupama FDJ aujourd'hui. Tour de France 2005, sixième étape, arrivé à Nancy, Christophe Mangin, ton coureur, est devant, il lutte face au peloton.
Pense à ta femme et à tes filles, allez, c'est maintenant, c'est maintenant.
Quatre autres coureurs, Stéphane Auger, Yann Kirsipu, Karsten Kroon et l'Italien Gerosa viennent rejoindre Mangin. Inexorablement, le peloton revient sur les fuyards, désuni par les attaques de Christophe Mangin. Dans la dernière bosse, il s'en va seul. L'avenir lui appartient. Mangin, le régional de l'étape, ne rend pas les armes. Soutenu par Marc Madiot, son directeur sportif.
Allez mon petit, allez, allez, encore, encore, encore Toto. Jusqu'au bout, tu vas y croire. Jusqu'au bout, mon. Encore Toto, encore mon petit. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Coup du sort, Mangin chute.
Merde. Oh putain, les autres chez nous qui tombent!
Il est à terre comme toute la première partie du peloton. 176 km devant et une chute terrible sur ces avenues qu'il connaît pourtant si bien.
Je suis triste pour lui, vraiment triste. C'est pas souvent que je pleure, mais là. Pff. Je méritais pas ça.
C'est fort quand même.
Ouais, mais Christophe, c'est un des tout premiers coureurs que j'ai eu dans l'équipe, quand on a créé l'équipe de la Française des Jeux. Et cette étape, je pense que... Enfin, on savait, lui comme moi, que c'était sans doute la dernière grande occasion de sa carrière, quoi. Et la chute et l'issue de cette étape étaient forcément tristes. Voilà.
T'as beaucoup pleuré dans une voiture pour tes coureurs ?
Pas très souvent, mais ce jour-là, oui. Mais parce qu'il y avait ce lien. Enfin, Mangin, c'est un mec bien. Voilà. Mangin Guédon, c'est les débuts de l'équipe de la Française des Jeux et. C'est deux mecs bien, vraiment très bien. Et j'ai toujours lien et amitié pour eux. Il y en a un qui travaille avec moi, c'est Fred. Et puis Christophe a pris d'autres routes pour son devenir personnel et professionnel. Mais quand on se retrouve, et régulièrement, hein, notamment sur le Tour de France, on a toujours ce lien. Voilà.
Le grand public te connaît aussi pour ça, pour ce genre de moments assez forts, très forts, ces moments d'hommes. Là, on vient de l'entendre dans la défaite, il y a aussi dans la victoire. Forcément, Marc Madiot, c'est aussi 2019, en haut du Tourmalet, pour Thibaut Pinot.
Allez Thibaut ! Il y a Bernal.
Il est bien.
Allez !
Allez,
ça y est, ça se concerne. Allez, Thibaut, allez, mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand, allez, mon grand, ouais, mec, tu vas le faire, ouais.
Ça te fait quoi de réécouter ça, Tu l'aimes bien le l'homme qui crie là?
Ouais, bah c'est moi de toute façon, donc oui, quand je suis dans le match, je suis dans le match. Et voilà, je sais qu'il ne m'entend pas, mais j'ai le sentiment que par l'esprit, je suis là, quoi.
Tu es comme ça dans la vie aussi ?
Sans doute un peu, ouais.
Elisa Madiot, Elisa.
Oui, ma nièce.
Ta nièce, la fille d'Yvon.
Fille d'Yvon, oui.
Évidemment. Elle va nous dire si Marc Madiot dans la vie est aussi habité.
Je vous rassure, il est exactement pareil dans la sphère privée. Hein. Il n'y a rien qui est joué, il n'y a rien qui est imaginé spécialement pour les caméras. Hein. Si on s'amuse à regarder une course de vélo avec Marc à la maison, le week-end, dans le canapé, sa femme vous le dira sûrement aussi, mais c'est exactement le même modèle et la même chose. Mais je crois qu'il ne peut pas... Il ne peut pas faire autrement. Moi, parfois, quand il crie comme ça, on serait tenté de se cacher un peu sous un coussin qui passerait par là. Mais non, ça fait de lui ce qu'il est. Et puis, il est passionné, il est habité même. Il est plus loin que passionné. Il est habité et possédé.
Oui,
possédé.
Habité, oui, possédé, je ne sais pas, mais habité sûrement. Ouais. Ouais. D'ailleurs, oui, mon fils, quand il était tout petit, il avait peur.
C'est vrai ?
Quand je regardais, ma femme me disait « Arrête, ne crie pas !»
Tu criais en quelles circonstances ? Quand tu regardais du sport à la télé ?
Ouais, du sport à la télé, un sprint, du sport à la télé, oui, ça m'est arrivé de... Oui. Alors... Une des dernières fois que j'ai crié, c'est quand Pagenaud a gagné les 500 miles d'Indianapolis. C'était... Moi, je m'intéresse au sport auto, tous les ans, j'essaie de regarder Indianapolis. Et puis... Je ne pensais jamais assister à la victoire d'un pilote français, jamais. Et là, je ne sais pas, progressivement dans la course, j'ai senti que Pagenaud allait gagner, enfin, il allait être en situation de gagner. Et, à 3-4 tours de la fin, j'ai dit à ma femme et à mon fils, venez, vous allez assister à un événement historique. Il va gagner. Mais j'étais debout, j'étais hystérique devant ma télé. Elle m'a dit, mais t'es complètement cinglé. Mais d'assister à la victoire d'un Français à Indianapolis qui ne s'était pas produit depuis une centaine d'années, c'était un immense moment de sport. Moi, franchement, j'ai pris mon pied, pas possible.
Eh bien, justement, nous avons la vidéo. Non, pas du tout, Marc, évidemment. Alors, quand tu es content comme ça, parfois, tu peux faire mal à tes coureurs. Pourquoi je dis ça ? On va écouter cette anecdote de Sandy Cazard, l'un des anciens coureurs.
En haut du Faron, j'arrive à suivre les meilleurs qui sont venus courir Jalabert. Et je fais quatrième. Et là-haut, tellement heureux qu'il me prend dans ses bras, mais en même temps, il me met un coup de boule. donc voilà, ça, c'est Marc Madiot. Moi, je me rappelle aussi d'un premier Paris-Nice où il me suivait derrière un contre-la-montre. Et le soir, je ne comprenais pas pourquoi il n'arrivait plus à parler. En fait, je pensais qu'il avait un micro. Le micro ne fonctionnait pas derrière dans la voiture. Quoi.
Ils aiment bien cette folie en toi, tes coureurs, tu penses, Marc ?
Je ne sais pas s'ils aiment bien, mais ils s'y habituent. Mais je pense que... Alors, il y a plusieurs... Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui n'aiment pas et qui me le disent. Ils me disent, si tu me suis, tu dis rien. Alors, il y en a, il ne faut rien dire. Il y en a, il faut, au contraire, ils aiment ça. Ça dépend.
Tu arrives, toi, même habité dans une course, tu arrives à faire la part et à écouter tes coureurs, à savoir qui a besoin, qui n'en a pas besoin.
Oui, bien sûr. C'est des moments rares, hein, ce qu'on évoque là. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, ce n'est pas dans toutes les courses. C'est les circonstances qui amènent à. Voilà.
On a l'impression que tu as une relation forte avec tes coureurs. Est-ce qu'elle est si forte que ça ? À chaque fois qu'on a appelé pour préparer cette émission un coureur, quand on dit Marc Madiot, il n'y a pas de problème. On a très envie toujours de parler de Marc Madiot.
Bah, parce que, alors on me l'a, de temps en temps on me le reproche ou on me le reprochait, on m'a souvent dit ou on me dit tu es encore coureur. Voilà. Donc, j'attends à la fois beaucoup de mes coureurs et en même temps j'ai une forme d'indulgence parce que je sais ce que c'est que d'avoir mal. Voilà. Après, comme me disait mon père, t'as le droit de perdre mais t'as pas le droit d'être mauvais. Voilà. Donc c'est, dans la relation avec le coureur, c'est ça.
Alors, tu n'es pas seulement habité, Marc, tu sais parler à tes coureurs. Cette séquence incroyable, notamment où le jour où Thibaut Pinot abandonne le Tour de France 2019, alors qu'il est si près du maillot jaune, tu es dans la chambre de Thibaut Pinot. C'est un document exclusif France Télévisions. On va se le remémorer parce que pour savoir qui est Marc Madiot et comment il parle à ses coureurs.
Qu'est-ce que j'ai fait pour pas mériter ça, putain ?
Mais tu mérites pas. Tu mérites pas ce qui t'arrive. Mais ça peut aussi arriver.
C'est tout pareil.
Hein?
Tant.
Non mais t'as tout bien fait, c'est tu y es pour rien. C'est que ça devait pas être pour cette année.
C'est fini, on arrête.
Non, mais non, ne dis pas ça. Ne dis pas aujourd'hui ce que tu regretteras demain.
J'arrête.
Non, non.
Je peux plus.
T'as tout bien fait, t'as rien à te reprocher. Continue à faire tout bien, et puis un jour ou l'autre, ben, non. La porte va s'ouvrir. Mais comme toi, ça renonce pas. Et puis demain, ben là, demain il fera jour. Demain il fera jour, mon grand.
Tu m'as déjà dit ça la dernière
fois. Mais oui, mais je te l'ai. Ben oui, mais la preuve, je m'étais trompé ou pas qu'il allait faire jour. Faut jamais renoncer. Tu l'as en toi, ce truc-là. Tu l'as en toi, il n'y a pas 50 mecs qui l'ont en eux. Toi, tu l'as.
C'est instinctif, ce discours ?
Oui. Oui. Je prépare jamais mes discours à l'avance. Enfin, je les prépare. Je prépare jamais. Je prépare, mais je mentalise tout seul. Quand je dois faire mon briefing général, les jours, voire les semaines avant, j'y réfléchis. Je commence à mémoriser des mots-clés dans ma tête. Mais c'est la radio qui me l'a appris, d'ailleurs. Je prépare des bouts de phrases que je sais que je vais pouvoir ressortir le moment venu. Mais en fait, préparer au sens tout écrire à l'avance, non. Je prends des notes, j'ai quelques lignes que je ne veux pas louper. Et à partir de là, je me mets dans le truc. J'ai gardé ça de l'époque où j'étais coureur. J'arrive à me concentrer sur un événement. Je sais me conditionner par rapport à un moment. Et à partir de là, quand j'ai mes points de passage et mes objectifs, après je peux partir en live, j'ai plus besoin de notes. Je peux faire un one shot sans problème. Parce que je suis prêt. Parce que je l'ai mentalisé, parce que je l'ai mémorisé. Mais j'ai pas forcément besoin de tout écrire. Ou je vais écrire, et puis après je vais déchirer, et j'aurai écrit. Mais après, une fois que j'ai écrit et que je l'ai mémorisé, j'ai plus besoin de notes. Ça vient tout seul.
Gérer l'humain comme ça, c'est ce que tu aimes aussi ?
Mais ce qu'on vient d'entendre avec Thibaut, il n'y a rien d'anticipé en fait sur ce moment-là. J'apprends qu'il a abandonné, je suis seul dans la voiture pour redescendre vers la ville d'arrivée. Et là, je commence à me refaire mes mots. Mais quand je me retrouve dans la chambre avec lui, j'ai aucun mot, aucune anticipation de quoi que ce soit sur ce que je vais lui dire. J'ai juste ce que je me suis mis moi dans ma tête. Dans le temps qui s'est écoulé entre le moment où il a abandonné et le moment où je suis arrivé dans la chambre d'hôtel.
Tu le disais, t'es encore coureur, ou en tout cas c'est ce que certains peuvent dire. Là, à ce moment-là, et même en règle générale, t'as beaucoup de tendresse là, pour Thibaut Pinot. Tu comprends ce qu'il traverse ?
Oui. Oui, mais en même temps, je ne veux pas lui laisser le... Je ne veux pas douter avec lui. Je pense que dans ces moments-là, il faut tout de suite être très actif, très, très positif. Et d'abord parce que c'est ce que je pense. Et ensuite, c'est ce que je dois lui transmettre. C'est ce que je dois lui transmettre. C'est mon rôle de lui transmettre ça. Je ne peux pas arriver dans la chambre et lui dire « Oh, mon pauvre Thibaut, bah, c'est pas grave. » c'était pas pour nous. Enfin, je peux pas être défaitiste. Je ne peux pas être dans le renoncement. Déjà parce que moi, je n'y suis pas dans le renoncement. Donc, la volonté et la détermination que j'ai, je dois tout de suite lui redonner. Je dois lui recharger la batterie tout de suite. Le doute ne doit pas s'installer, même s'il est forcément en périphérie. Mais il faut pas que ça rentre dans le cœur. Il y a un moment. Ce qui est important aussi, c'est que le coureur doit sentir que je suis avec lui. Ça, c'est vital. C'est vital. Le coureur, je suis avec lui. Encore une fois, on est embarqué sur le même bateau. À partir du moment où on est embarqué ensemble, on va jusqu'au bout ensemble. Moi, je suis embarqué avec Pinot. Donc, jusqu'au jour où notre relation professionnel se terminera, je serai avec lui à 1000%. Avec tous mes coureurs, je suis à 1000% quand ils sont dans mon équipe. Voilà. C'est l'engagement que je dois avoir vis-à-vis de mes coureurs. Je dois être avec eux. Alors ça n'empêche pas que parfois on peut se dire des choses pas toujours agréables parce que ça ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner. Mais l'objectif ultime, c'est d'être avec eux. Et ils doivent sentir à tout moment que je suis là pour les aider. Et aussi pour les ramener dans le chemin quand ils ne sont pas là où ils doivent être. Mais je dois être avec eux.
Il le sait, ça, Thibaut ?
Je pense qu'il sait que je ne lâche pas. Je n'ai jamais lâché. Et je ne lâche pas. Comme les autres, hein. À partir du moment où je sais que le coureur fait ce qu'il a à faire, donne ce qu'il a à donner, s'investit comme il doit s'investir, et se fait mal comme il doit se faire mal, et Pinot se fait mal. C'est un des coureurs qui se fait le plus mal sur un vélo. De ceux que j'ai pu rencontrer, c'est un de ceux qui va le plus loin. À partir de ce moment-là, je dois être à la hauteur de ce qu'il attend. Je dois être à la hauteur. Je dois faire en sorte que l'équipe soit opérationnelle. Je dois faire en sorte que l'encadrement soit au niveau. Je dois faire en sorte qu'il ait les meilleurs coéquipiers possibles et qu'on soit tous dans le même état d'esprit. Après, il y a les aléas de la course qui font que ça se passe plus ou moins bien. Mais on doit, sans chaque course, se reconstruire pour partir sur ce schéma-là.
Cette passion, pour boucler la boucle sur Madio, le passionné, cette passion, ça fait souffrir tes proches ?
Ça ne leur rend pas la vie forcément très facile. Ça, c'est clair. Sûrement, je comprends. Souvent, ma femme me dit « tu ne m'écoutes pas ». Alors, elle peut me parler et puis elle est à un mètre de moi ou mon fils est à 2 mètres de moi et puis je suis dans un truc et j'entends plus. J'entends plus. Et c'est pas que je veux pas entendre, mais je n'entends plus. Donc c'est pas ça peut compliquer la vie parfois.
tu penses qu'elle est jalouse du vélo ?
Jalouse, je ne sais pas, mais il y a forcément une concurrence. Enfin, elle le ressent comme une concurrence, mais moi je place les choses sur deux plans différents.
On lui a posé la question.
Ah,
la réponse.
Oh.
Oui, je suis jalouse. Ouais. Il me dit tout le temps, d'ailleurs, ce qui m'énerve profondément, arrête de te mettre en concurrence avec eux, parce qu'avec ces coureurs. Arrête de te mettre tout le temps en concurrence avec eux. Parce que forcément, ça tourne autour de ça. Parce que j'aimerais qu'ils me consacrent autant de temps qu'eux, ou du moins pas plus, hein, je ne demande pas plus, hein, mais autant, et qu'ils prêtent un peu autant attention à moi qu'à ces coureurs. Quoi.
Elle a pas tort.
Encore une fois, elle a pas tort.
Bah ouais.
Un autre papier dans la boîte à souvenirs avec Marc Madio sur RMC.
Renazé, oula.
Oh, Renazé. C'est quoi Renazé ?
C'est la terre où je suis né, c'est ma vie. Voilà, je suis de Renazé.
C'est en Mayenne ?
Oui.
Et le vélo en Mayenne, à Renazé, ça va vite devenir une passion.
Oui, puis enfin, moi je suis fils d'agriculteur, donc peu d'occasions de s'éloigner trop du village. C'est 7 jours sur 7 au travail, les vaches à traire, la terre à retourner. Mais c'est mon havre de paix, je suis chez moi. Quand je rentre de course, ou quand j'étais coureur, quand je rentrais de course, quand j'arrivais sur Renazé, ça y est, tout était débranché. Quoi. J'étais le petit garçon qui a toujours été à Renazé. Heureux d'être là, voilà, tout simplement. C'est pas un beau village. Il n'y a rien d'extraordinaire à Renazé, mais c'est le centre de ma vie. Voilà. Si je dois rattacher ma vie à un lieu, c'est celui-là.
Tu as 9 ans, le Tour 68 passe par chez toi, et ça va opérer peut-être comme un déclic.
Cet anneau, dans un magnifique cadre de verdure, c'est le vélodrome municipal de Vincennes. Cet homme qui se bat, qui lutte, jette ses dernières forces pour courir les 500 derniers mètres du Tour de France, c'est Jan Janssen, le premier Hollandais vainqueur de la Grande Boucle. Il cravache, il est à la limite, il se bat, il cherche cette ligne d'arrivée qui ne veut pas venir, et pourtant la voilà, elle est franchie, c'est terminé. Le chronomètre a parlé, Jan Janssen a gagné. La meute des journalistes, radio-reporters, photographes se jette sur cet homme. Kelderman, son directeur sportif, s'associe à sa joie. Et pourtant, ce sont des larmes.
C'est ton premier souvenir de Tour de France ?
Oui. Alors, j'en ai un précédent où j'étais sur le bord de la route avec mon grand-père. Ça doit être 64 ou 65. Mais 68, c'est les premières images que j'ai de concrètes du Tour de France à la télévision.
Faire du vélo, c'était l'occasion pour toi de quitter la ferme familiale. Oui. Ça représentait la liberté.
La liberté, ouais, c'était aller un peu plus loin que le bout du chemin. Voilà, progressivement.
Et encore plus loin, et encore plus loin.
Toujours plus loin.
C'est étonnant parce que tu es attaché à cette ville, évidemment. Mais au final, tu voulais partir le plus loin possible. Toujours revenir, mais partir le plus loin possible.
Ah oui, mais surtout revenir, donc c'est mon port d'attache. Comme les marins, ils veulent tous partir, mais ils veulent revenir à leur port.
Et même à 11 ans, tu partais à l'école à vélo avec, oui. Avec un copain à ce
oui.
moment-là.
Le maire de Renazé aujourd'hui, Patrick Gauthier.
Qu'est-ce que vous faisiez ?
On faisait un sprint tous les jours en rentrant de l'école. On avait un cahier, on notait qui avait gagné. Et tout.
Patrick Gauthier,
maire.
Maire de Renazé, oui. Monsieur le maire.
Oui.
On va l'écouter.
Nous allions ensemble à l'école. Et surtout, quand nous sommes partis au niveau du collège, où là, le soir, en rentrant, nous avions une longue ligne droite, pour nous qui paraît longue, de environ 300-400 mètres de long, et où nous faisions des sprints avec nos vélos de demi-course et avec nos cartables sur les portes-bagages. Honnêtement, il était plus fort que moi. D'ailleurs, sa carrière en témoigne, il était vraiment passionné et avec la hargne de gagner, celle qu'on connaît, quoi, de toute façon.
Oui, c'est vrai que Patrick Gauthier n'a pas forcément fait carrière.
Il n'a pas fait carrière, mais il fait une autre carrière.
Mais il fait une autre belle carrière.
Et voilà.
Comment réagit ta famille, ton papa, à cette passion pour le vélo ?
Au début, il n'était pas très chaud. C'est-à-dire que lui, il avait fait de la course à pied, du cross-country. Donc, il a voulu que je commence par ça. Donc, j'en ai fait, mais j'étais pas mauvais, mais j'étais pas très courageux à l'entraînement. Et c'est tout de suite, enfin moi ça a toujours été, tout de suite été le vélo derrière. Donc je le tannais pour avoir un vélo. Il m'a dit ouais, je vais t'acheter un vélo, puis dans 2 mois après tu vas plus en faire. Donc je l'ai tellement tanné pour avoir un vélo qu'il m'a dit écoute, si t'as ton BEPC, t'auras un vélo. Donc j'ai eu un vélo, quand j'ai eu mon BEPC, c'était parti.
C'était un sacrifice à l'époque. Tu le dis, hein, tes parents fermiers, pas forcément beaucoup d'argent à la maison. Ils se sont sacrifiés, ton papa s'est sacrifié justement pour cette passion ?
À partir du moment où j'ai commencé à courir, il a été en permanence derrière nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engageait sur quelque chose, il était là en soutien. Mais nous, moi et mon frère, c'était pour le vélo, mais par rapport à nos sœurs, c'était la même chose, quoi. Il y avait un soutien total sur ce que l'on faisait. Après, il y avait des exigences. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, tu as le droit d'être... tu as le droit de perdre, mais tu as le droit d'être battu, mais tu n'as pas le droit d'être mauvais, quoi. Il était toujours là, juste derrière. C'est-à-dire que quand je partais à l'entraînement, aucun commentaire. Si j'étais une journée sans m'entraîner, aucun commentaire. Si j'étais 2 jours sans m'entraîner, il commençait à me regarder. Et 3 jours, mais il me disait « mais t'es malade ». Et s'il me voyait auprès de la fenêtre en train de regarder si le ciel allait s'éclaircir pour pouvoir partir rouler, il me disait, regarde là-bas, il y a 1 hectare de ciel bleu. C'est ce que je rappelle souvent à mes coureurs, il y a 1 hectare de ciel bleu, tu peux aller rouler. Donc c'est ça mon père.
Et ton petit frère, 3 ans de moins,
oui.
Yvon, tu l'embarques dedans, on l'écoute.
C'est lui qui m'a amené au vélo. Moi j'étais dans course à pied au départ, et quand il a... Bon, j'ai pas eu besoin d'aller faire beaucoup de courses, hein, enfin d'aller le voir sur beaucoup de courses, parce que forcément c'est lui qui a commencé. J'ai dû aller le voir une fois ou deux, et puis ça y est, en rentrant, moi je voulais être coureur cycliste également, quoi. Sans savoir vraiment, sans connaître tous les grands champions, sans savoir tout ce qui se passait derrière, mais ouais, moi je voulais être coureur aussi, quoi.
C'est venu naturellement ? Tu l'as poussé un petit peu ?
Non, je pense que c'est venu naturellement. Ouais.
Et le fait que... ton papa, votre papa, avait une vie dure, oui. Les traites des vaches, oui. 3 heures du matin, 7 jours sur 7, sur le pont. Vous voir faire du vélo, c'était une fierté ?
Faire du vélo, c'était pas une fierté, mais avoir des résultats en faisant du vélo, oui. 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 Et, c'est-à-dire que s'il nous emmenait courir loin de la maison, il se levait très tôt le matin pour faire la traite de ses vaches, et le soir, il remettait ça en rentrant de la course. Il n'allait pas faire 200 km en bagnole pour être ridicule en course. Voilà. Donc, Le fait d'être opérationnel et de donner ce qu'on avait à donner en course, ça, c'est lui qui nous l'a inculqué. C'est-à-dire que d'aller en course et d'y aller sans ambition et juste pour le plaisir, c'était pas possible. C'était, on y va pour faire la course et pour gagner. Si on gagne pas et qu'on a donné, c'est pas grave, mais on n'a pas le droit d'être mauvais. Enfin, encore une fois, il y a... Mon père, c'était ça, quoi. Il n'avait pas le droit d'être mauvais. Si l'hiver, j'avais des petites intentions de sortie ou d'échappatoire, il me dit ça se paiera au mois de janvier ou au mois de février à l'entraînement. Il ne m'empêchait pas de sortir, mais il me rappelait mon devoir de coureur. Donc après, c'était à moi de décider. Alors des fois, je l'écoutais, des fois, je ne l'écoutais pas.
Il y avait une forme de pression ?
Non. C'était tu as choisi d'être coureur, tu fais ce qu'il faut pour être coureur. Voilà, c'est tout. Mais il ne me le disait pas, c'était dans le ressenti, c'était dans le vécu au quotidien. Voilà, c'est comme ça.
Ton papa exigeant, tu l'as été aussi un petit peu avec ton frère, Yvon. Tu lui as fait un petit peu mal à la gueule, comme on dit dans le vélo.
Mais aussi, je crois qu'il avait besoin d'un sparring partner donc, pour faire ses premiers tours de roue. Donc voilà, lui... Il jouait, j'étais Louis Ocaña, moi j'étais Raymond Poulidor, forcément, ben, il voulait toujours être devant. Bon, pour lui, Louis Ocaña n'était jamais battu. Donc, et je me rappelle, la petite anecdote, je me rappelle qu'il avait coupé deux feuilles de papier. Sur une, il avait marqué, pour ne pas les citer, Big sur son papier, puis il l'avait accroché, on a accroché ça sur nos t-shirts, puis il avait Big et moi j'avais Gann sur le maillot. Quoi.
Ouais. Voilà, on jouait au coureur.
Avec l'envie déjà très tôt.
Ah oui.
À 15 ans, quand tu participes à tes premières courses, tu sais que tu es dans le match.
Ah oui, non, j'étais dans le match. Et puis très vite, alors j'ai souvent dit à vos confrères, j'ai eu la vocation d'être coureur comme on a la vocation d'être curé. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. J'ai toujours eu, ouais, j'ai toujours senti que je serais coureur cycliste professionnel. Voilà.
Et à 17 ans, tu voulais aller chez Peugeot, mais on ne voulait pas forcément de toi là-bas.
Non.
Pourquoi d'ailleurs ?
Ben parce qu'à l'époque, il y avait les contrats Peugeot, mais il n'y avait pas 50 000 contrats. Et puis en Mayenne, j'avais un concurrent qui s'appelle Philippe Dalibar, qui est un copain maintenant. Et il est passé avant moi et il a récupéré le contrat Peugeot. Et quand je me suis pointé, il n'y en avait plus. Donc là, je suis tombé sur un marchand de cycles de l'Orne, le département limitrophe, qui m'avait vu courir et qui m'a prêté un vélo gitane. C'est comme ça que ma carrière et mon orientation gitane est venue par ce biais-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais roulé Peugeot. Après, Peugeot est revenu me voir et j'ai toujours dit non.
Voilà, pas du tout rancunier comme vous pouvez vous en apercevoir, Marc Madiot. Et c'est là aussi où tu fais les premiers contacts avec Cyril Guimard. Et à 17 ans, il t'emmène en stage avec la star de l'époque, Bernard Hinault. À 17 ans.
Ouais, mais c'était déjà. Enfin, quelque part, je trouvais ça déjà.
Normal.
Normal.
C'était ta voie, c'était ton chemin.
Ouais.
Je crois que tu leur faisais mal aussi un peu quand même.
De temps en temps. Voilà.
Déjà si jeune. Marc Madiot avec nous sur RMC dans la boîte à souvenirs. Un nouveau papier avec toi, Marc.
De la part du nouveau champion de France. Ah ouais.
C'est quoi cette histoire ?
Cette histoire, c'est on est en 87.
26 juin 87.
Ouais, championnat de France. Le matin, on est à l'hôtel. On quitte l'hôtel pour aller au départ. Et comme souvent dans les hôtels, on signe le livre d'or. Et mon frère prend le crayon et signe de la part de l'ancien champion de France. Je prends le crayon, je mets instinctivement de la part du nouveau champion de France. Puis je me dis, oh, j'ai peut-être été quand même un peu présomptueux. Puis hop, je dis non. Si je l'enlève, ça va me porter malheur. Et on fait la course, je gagne. Et le soir, on repasse à l'hôtel. J'ai regardé, je l'avais écrit ce matin.
Incroyable. Alors, il faut dire, et tu l'as précisé, de la part de l'ancien champion de France, en 86, ton frère est champion de France, Yvon. Et donc, 87.
C'est moi.
Il y a cette histoire. C'est d'ailleurs le seul titre de champion de France que tu vas
sur
avoir.
Sur route, ouais.
Sur route, évidemment. C'était quoi ? C'était parce qu'on peut le reprocher à un coureur d'avoir, non pas trop d'ambition, mais d'avoir un peu le melon d'écrire ça, non ? C'était pas ça.
Non, c'était... c'était de l'instinct, c'était de la projection, c'était... Non, c'était pas le melon, c'était... comme on a dit tout à l'heure, hein, j'étais sans doute habité un peu par le truc, quoi. Voilà, ça.
On va réécouter ton frère, qui, évidemment, est un personnage central dans ta vie, on en reparlera un petit peu plus tard dans la boîte à souvenirs, sur cette ambition des championnats de France.
Je pense qu'il sentait, par détermination. Je crois qu'il était déterminé, ce jour-là, à gagner ce championnat. J'étais très motivé, cette course, je marchais très bien, mais j'avais pas cette petite détermination que j'avais l'année d'avant et que lui, il avait au départ. Et, enfin, je crois qu'il partait un petit peu en guerre quand il sortait ces courses-là, quand il était vraiment... il sentait qu'il était en grande condition. Et dans ces cas-là, il était vraiment... Il n'était pas facile à battre dans ces cas-là.
Pas facile à battre, hein, quand... Tu as la bave aux lèvres, Marc. Mmh. Avec Marc Madiot dans la boîte à souvenirs, un nouveau papier avec toi, Marc.
Yvon. Oula.
Bon, on en a parlé un peu d'Yvon.
Oh, beaucoup.
Pas le assez, frère, le assez. Frangin.
Ouais.
Le petit frère.
Le petit frère, mais qui est aussi le grand frère, quelque part.
Pourquoi ?
Parce que il est mon équilibre dans l'équipe. Il est mon équilibre. Voilà.
Tu as évidemment couru avec lui, mais il fait partie de l'équipe Groupama FDJ.
Alors, ce qui est avec mon frère, on va dire en travail, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais on évolue ensemble depuis son passage chez les pros, c'est-à-dire en 83. Depuis 1983, on a toujours fait route commune et toujours travaillé ensemble.
Et quand on fait une équipe, une seule équipe dans sa carrière. Bon, ça peut se comprendre, vous êtes tous les deux en contrat, vous faites... Sauf que vous avez fait 7 équipes différentes dans votre carrière.
Et toujours ensemble.
Et toujours ensemble.
Ouais, c'était... inéluctable. Voilà, c'est comme ça.
Comment ça se passait avec les patrons d'équipe ?
Quand c'était simple...
Quand on vient chercher Marc.
Oui.
On vient chercher Yvon aussi, donc.
Ah, on prend Yvon en même temps, c'est sûr. De toute façon, ça se savait, et puis... je pense que nos parents n'auraient jamais supporté qu'on soit dans deux équipes différentes. Ça, c'est clair.
Adversaire, c'est pas possible.
Ah non, on n'a jamais été en concurrence. On a toujours été en complémentarité. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est même, en même temps, ça s'explique très simplement. Je pense que les meilleurs résultats qu'a eu Yvon, c'est quand j'étais moins bien. Voilà. Parce qu'il assurait le devenir de la fratrie.
Tu te souviens de la première course avec ton frère ? Première course professionnelle ?
La première course professionnelle ? Non, je ne me rappelle pas.
Non ? En tout cas, Yvon Madiot s'en souvient très bien.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est la première course que j'ai faite, que j'ai pu faire avec lui. Et où là, il a usé de son expérience sur une course et il l'a raconté déjà et ça me reste en mémoire. C'était un Paris-Bruxelles où tombait des cordes, pleuvait en saut et moi, inexpérimenté, je prends le départ sans vêtements de pluie. Et au bout de quelques dizaines de kilomètres, je suis traversé, envie de froid et je dis à Marc que je ne vais pas pouvoir continuer, je suis complètement gelé et tout. Et lui me tend son caouet pour me couvrir. Je dis, ah, il est sympa mon grand frère, il me donne son caouet. Il donne son caouet à son petit frère et tout. Puis en fait, lui, il a abandonné. Il a été se mettre au chaud et moi, j'ai fini la course. Je pense qu'il savait qu'il allait abandonner. Il a dit, tiens, prends le caouet.
Vrai.
Ça t'est revenu, là.
Oui, ça m'est revenu. Ouais, exact. Non, complètement vrai.
Ça existe encore. Ça pourrait encore exister aujourd'hui. Tu accepterais de prendre deux frangins dans l'équipe ?
Ah, mais j'en ai. J'en ai un qui est coureur et l'autre qui est entraîneur.
Mais deux coureurs.
Deux coureurs, oui. Ah oui, sans problème. Sans problème.
Ça n'a jamais gêné les patrons en se disant « bah tiens, il y en a un qui est moins bien, qui est moins bon. Non, c'est toi que je veux. »
Oui, mais voilà, après, c'est un deal. Hein. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Hein.
Et ça, c'était inéluctable.
Ouais.
C'est les deux Madiot quand on
c'était
veut.
Les deux. Et puis aujourd'hui, l'équipe fonctionne avec les deux. Et tout le monde sait dans l'équipe qu'on fonctionne. Et je ne suis pas toujours d'accord avec mon frère. Hein. Mais... Il y a ce tronc commun, cet ADN entre nous qui fait que... Voilà.
Alors c'est marrant parce que tu dis, c'est peut-être lui parfois le grand frère. C'est oui, lui mon sûr. Équilibre.
Ah oui.
Lui, il pense complètement l'inverse.
Ah bon.
C'était une, surtout pour Marc, parce que c'est quand même lui qui était à la base du projet. C'était pour lui une évidence que je vienne l'aider, que je vienne travailler dans l'équipe. C'est le patron, et j'ai toujours respecté ça. C'est mon grand frère, ça, mais j'ai toujours vu aussi comme mon patron. Donc voilà, quand il prend une décision, je sais qu'il va me demander mon avis, mais j'ai toujours vu... ça a toujours été mon aîné, forcément. Il a toujours... c'est lui qui a commencé le vélo avant, c'est lui qui a eu les premiers grands résultats, il a été meilleur que moi au niveau des résultats. Et après, c'est lui qui a lancé l'équipe, ça a toujours été le moteur de l'équipe. Et je l'ai toujours vu comme plus grand que moi, quelque part.
Ça te fait quoi d'entendre ça?
Ça ne me surprend pas totalement, mais il se... il se sous-estime. Voilà.
Il sous-estime le poids qu'il a sur toi?
Ah oui. Oui.
Et l'influence?
Il a de l'influence sur moi, oui. Ouais. Heureusement.
Vous passez votre vie ensemble?
Eh ben non. Eh ben non. On pourrait supposer ou imaginer, quand on raconte tout cela, qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, mais pas du tout. Pas du tout. J'habitais encore à Renazé. Lui, il habitait à 200 mètres de l'autre côté. On avait un étang en commun. Pièce d'eau en commun. Et lui, il a construit une maison d'un côté. Et moi, j'habite la maison où je suis né, en fait. Je suis né à la ferme. Je ne suis pas né à l'hôpital. Je suis né à la ferme du Favier à Renazé. Et lui, il a construit une maison de l'autre côté de l'étang. On se retrouvait pour s'entraîner. Mais en fait, nos vies... hormis la course, hormis l'équipe, hormis ce lien qu'on a entre nous par rapport au vélo, le reste, chacun a sa vie, quoi. Et c'est ce qui fait que ça marche. Parce que, voilà, il a ses attractivités pour lui, par exemple les chevaux, les courses de chevaux, l'élevage et tout ça, c'était son truc avec notre père. Moi, je n'étais pas du tout là-dedans.
Jennifer va nous parler justement de votre relation, la relation des frangins.
Ils n'ont ni besoin de se voir, ni besoin de se parler pour savoir ce que l'un et l'autre pensent. Et ils sont capables de rester, on est capable, avant, quand on était à Renazé, Yvon, il avait la maison juste à côté. On était capable de passer une semaine là-bas et ils ne se voient pas. Et au début, c'est bizarre. Et puis en fait, ils savent qu'ils sont l'un à côté de l'autre, ça leur suffit. Ils savent que s'ils ont besoin, ils s'appellent ou ils vont se voir. Mais voilà, ils sont voilà quand ils ont pas besoin de se parler pour se comprendre.
Vrai. J'ai pas besoin de parler 10 fois par jour à mon frère, c'est clair.
Mais tu sais qu'il est là. Il faut qu'il soit présent.
Oui, oui, oui. Non, mais il est là, il est indispensable et voilà.
La boîte à souvenirs avec Marc Madiot, un nouveau papier dans cette boîte à souvenirs avec toi, Marc.
Alors, Marc, vous êtes sûr qu'on va voir le Vélodrome? Ça, c'est Monsieur De Gallet, premier président de la Française des Jeux avec qui j'ai signé un contrat.
Exactement. On est en 1997. Ça tombe bien qu'on tire ce papier à ce moment-là, comme quoi les choses parfois sont bien faites. Parce que c'est la création donc, de cette équipe, la Française des Jeux. Et quelques mois plus tard, vous allez participer à Paris-Roubaix. Et évidemment, tu vas nous expliquer cette phrase dans quelques instants. On est le 13 avril, Paris-Roubaix, 1997. La Française des Jeux vient de se créer, ça a mis du temps.
13 avril.
J'ai dit
13 avril.
Oui, oui, 13 avril. Ouais, 13 avril. 13. Bah quoi?
13, bah c'est superstition.
D'accord. Je pensais que je m'étais trompé dans la date.
Donc, par hasard, il n'y a pas de hasard, le 13.
13 avril 97, en plus dans la Française des Jeux, voilà. Il faut avoir la superstition. Et le début de course ne se passe pas très bien. Hein.
Non, ça se passe mal. Au bout de 2-3 secteurs pavés, on n'a plus que 3 courants en course. Et là, c'est mal engagé.
Frédéric Guédon, qui fait partie des coureurs encore en course, s'en souvient.
On était 3 coureurs un peu protégés. Il y a Max Andry qui était le leader numéro 1. Et puis juste derrière, en outsider, il y avait moi et Christophe Mangin. Mais c'est vrai que bah, pour eux, la course n'est pas vraiment bien déroulée, puisque je me rappelle que Max avait été victime d'une chute à l'entrée des secteurs. Donc il s'était retrouvé relégué très très loin. Donc pour lui, c'était fini. Après, il y a eu Christophe, je me rappelle Mangin, qui était tombé, qui s'était fait balancer par la voiture de direction de course au moment du ravitaillement. Donc pareil, il avait été un peu hors course. Moi, les seuls soucis que j'avais eus, c'était deux crevaisons.
C'est ta première course, ta première grande course, ce Paris-Roubaix. Toi, en plus, on l'a vu dans cette émission, hein, qui adore cette classique. Et donc, ça se passe très mal. Que te dit le patron de la FDJ ?
Le patron de la FDJ, au bout de 3-4 secteurs pavés, me dit « Marc, vous êtes sûr qu'on va aller jusqu'au Vélodrome ?»« Ah, Monsieur le Président, oui, on va y aller, on va y aller. » Et puis là, je me suis concentré sur mes gars.
Ce qui restait, ouais.
J'essayais, alors je sais pas si je pense que ça marche. J'essayais de leur transmettre quelque chose par l'esprit. Il faut qu'on passe ce secteur, Et puis on a passé un, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis petit à petit, chemin faisant, on s'est retrouvé dans le final.
Pas trop vite sur le final, Marc, si tu le veux bien. On va laisser le suspense pour ceux qui ne sont pas au courant de la façon dont ça s'est passé. Déjà, évidemment, pendant la course, à un moment donné, tu es interrogé par les copains de France Télé. On t'écoute.
Avec nous en direct en duplex, Marc Madio. Marc, vous nous entendez ?
Oui.
Marc, Maximilian Ciandri, c'est votre principale carte, cela se confirme dans le final.
Oui, mais Guédon et Mangin méritaient mieux que ce qu'ils obtiennent actuellement, surtout Mangin qui a été renversé par une voiture, c'est dommage parce qu'il avait au moins les jambes prêtes devant, mais c'est pas terminé pour lui.
Ils sont toujours derrière et Frédéric Guédon également.
Comment ?
Frédéric Guédon est lui aussi derrière.
Guédon est dans le groupe derrière avec Mangin, là, juste dans le groupe de poursuite. Guédon a eu 2 ou 3 crevaisons, c'est un handicap, mais il va très bien.
Alors oui, vous allez voir le Vélodrome. Qu'il ne s'inquiète pas, le patron de la FDJ. Il ne reste qu'un espoir, c'est Frédéric Guédon. Comment ça se passe à ce moment-là ?
Il se passe qu'il y avait Moncassin qui était échappé avec Schmil. Ils avaient une dizaine de secondes d'avance sur un petit groupe où figurait Guédon. Et on est dans le final. Devant, ils commencent à se regarder les deux, parce qu'ils allaient vite les deux. Donc forcément, ça s'observe, ça s'attaque, ça se neutralise. Et je ne sais pas ce qui se passe, un truc instinctif, pareil, à 2-3 bandes de l'arrivée. Je dis à mon président, on peut encore gagner. Et là, M. De Gallet me regarde en disant, en me laissant comprendre, il ne me dit rien, mais il me laisse comprendre, vous êtes gentil, mais c'est quand même mal engagé votre affaire. Et puis, c'est Philippe Bouvet qui faisait Radio Tour. Dans la voiture, mais comme c'était mon premier Paris-Roubaix, j'avais pas anticipé le fait de passer sur une radio périphérique dans la voiture pour avoir l'arrivée. Parce qu'en fait, quand on est dans une course traditionnelle et normale avec une ligne d'arrivée, c'est la voiture de direction de course qui annonce le nom du vainqueur. Sauf que là, il y a la dérivation au vélodrome plus le tour du vélodrome. Donc la voiture qui suit, elle ne voit pas l'arrivée. Et nous, dans les voitures directeurs sportifs, on n'avait pas la télé non plus à l'époque et on n'avait que Radio Tour. Donc, moi, ce qui se passe, je suis derrière le groupe, donc je prends la dérivation.
Tu prends la dérivation, et là, il se passe ça.
Nous sommes sur le vélodrome. Les hommes vont passer sur la ligne. Le dernier tour, un tour de piste. Frédéric Moncassin en première position, Michelin en deuxième position. Schmiller en troisième position, Sorensen en quatrième position. Marc Wauters. Et là également, Frédéric Guédon qui vient de prendre la tête dans le dernier virage. Frédéric Guédon de la Française des Jeux. Frédéric Guédon qui gagne. Deuxième Museo, troisième Schmilin, quatrième Wauters. Frédéric Guédon qui a pris la tête dans le dernier virage. Vous avez vu son effort sur la droite de la route. Frédéric Guédon qui était 14e l'an dernier et qui aura bénéficié de manière extraordinaire de cette jonction.
Les frissons, hein. Donc tu prends la dérivation et qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que je suis dans la dérivation et on ne sait pas qui a gagné, puisque Radio Tour est coupé, puisque la voiture de direction de course est déviée, comme nous. Et donc je suis dans la voiture, avec le mécano derrière et M. De Gallet à côté de moi. Puis on avance, mais ça avance tout doucement parce qu'on est les voitures les unes derrière les autres pour rejoindre nos camions et nos véhicules. Et puis là, il y a Pierre Cassado, le frère d'un copain qui nous a quittés malheureusement, ancien coureur, Philippe Cassado. Et là, il y a Pierre Cassado qui me fait ça en passant devant la voiture.
Qui te fait le pouce levé.
Le pouce levé. Puis il voit bien à travers la vitre qu'on ne réagit pas. Et il revient, il me dit « Baisse la vitre ». Mais il dit « Mais vous avez gagné !» Et là, on s'est embrassé comme du bon pain avec M. De Galet. On était fous. Fous. Le truc en rêve. Guédon, il a fait le sprint de sa vie. On refait 20 fois le sprint, on perd 20 fois. Et là, tout s'est ouvert pour lui. Et il gagne. Truc.
C'est la première, c'est la plus belle ?
Ah, c'est un truc spécial, ouais. Ouais.
Quand on est jeune directeur comme ça d'une équipe, on se dit que c'est facile ?
Bah oui.
De gagner ?
Oui, quelque part, oui, parce que on n'avait rien fait d'exceptionnel, en fait, pour y parvenir. Si ce n'est qu'on avait l'insouciance des débutants, qu'on avait l'envie, la volonté, mais les autres aussi l'ont, l'envie, la volonté. Mais nous, on était sûrement insouciants, par rapport à l'événement, par rapport au moment, et ça basculait dans notre camp.
L'histoire est en marche, donc il était en marche pour la Française des Jeux. Un autre papier dans la boîte à souvenirs avec Marc Madiot.
Français de merde.
Ah, c'est qui ça, les Français de merde ?
C'est une population cycliste après les événements de 98.
Un an après avoir créé la Française des Jeux, le cyclisme est pris dans une déflagration.
C'est en spectateur que Richard Virenque et Alex Zouleux vont désormais suivre la deuxième partie du Tour de France. Comme leurs sept autres coéquipiers de chez Vestina, ils ont été contraints d'abandonner après leur exclusion hier par la direction du Tour.
Finalement, les Festina ne sont pas partis. La décision de les exclure a été prise par la société du Tour de France. Très déçu, Richard Virenque craque.
Tous ces, je dirais, journalistes qui sont là que pour ça en ce moment, ben puissent partir, rentrer chez eux, comme nous on va rentrer chez nous. Et je remercie le public qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous l'année prochaine.
On est donc en juillet 98, l'affaire Festina éclate. Ça se passe comment ?
Compliqué. Compliqué, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et en même temps, on sait qu'il y a de l'OPO. Faut aussi se souvenir qu'on est en pleine période Coupe du Monde 98. Donc on est en Irlande, il y a cette histoire qui démarre. C'est une déflagration. Très vite, en France, les équipes, la Fédé, la Ligue, les coureurs, on s'est retrouvés en réunion au mois d'août, au siège de la Fédé, pour dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on... En fait, on ne l'a pas exprimé comme ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on se tire dessus ou est-ce qu'on se... Est-ce qu'on finisse de se détruire tous ensemble ? En rejetant la responsabilité des uns sur celle des autres, ou est-ce qu'on essaie de redémarrer la reconstruction de quelque chose ? Et je pense que ce mois d'août 98 a été un moment fondateur pour le cyclisme français, et peut-être aussi pour le cyclisme tout court, mais on verra ça après. Mais ça a été un moment fondateur. On a commencé à échafauder, élaborer les moyens de sortir de ce marasme. Et là, on était en 98. Il y avait tout le monde, il y avait également les partenaires, les sponsors de l'époque. Tous les sponsors de l'époque sont d'ailleurs toujours là, au passage. Tous les sponsors français de l'époque sont toujours là. Que ce soit Cofidis, AG2R et autres, ils sont tous là. Et on a commencé à mettre en place des règles qui allaient potentiellement nous permettre de nous en sortir. On était en 98. Le seul truc qu'on n'avait pas anticipé, c'est que les choses évolueraient ou bougeraient au même rythme à l'étranger qu'en France. Et là, on avait aussi une forme d'insouciance, parce qu'il est clair que si on avait su à l'époque que ça mettrait autant de temps, on se serait sans doute découragé, on aurait sans doute renoncé. Mais néanmoins, on s'est projeté, on s'est restructuré, réorganisé à travers la réglementation, à travers les contrôles, à travers les suivis, le suivi, fameux suivi longitudinal et autres. Et progressivement, on a restructuré le cyclisme français. Mais le cyclisme français était trois pieds sous terre en termes d'organisation, en termes de structure, en termes de résultats. On était inexistant. Et là où on militait pour faire changer les habitudes de bon nombre de coureurs, on s'est heurté à des murs. Et d'où cette fameuse expression « français de merde » qui est née de la bouche d'un certain nombre de coureurs et d'équipes étrangères dans ces périodes-là. Ça a été long, très long.
Pourquoi on vous appelait les Français de merde ? Parce que vous ne gagnez rien ? Parce que vous vouliez être plus propre que propre ?
Non, parce qu'on voulait que tout le monde finisse la révolution quelque part. Or, ça n'a pas été le cas. Ça a mis des années et des années. Aujourd'hui, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus soft. Aujourd'hui, on est l'égalité parfaite n'existera jamais, mais on est quand même dans une forme d'équité et d'éthique. Cette époque-là, c'était pas du tout ça. Donc, on s'est retrouvé avec. On a été montré du doigt, français de merde. Il y a même eu des mots qui ont été dits. Les Français, vous avez qu'à vous entraîner. Voilà. Donc, la période a été difficile et longue, très longue.
Frédéric Guédon, on va l'écouter justement sur cette expression, les Français de merde.
C'est vrai qu'on a été traité de Français de merde à plusieurs reprises, hein. C'est sûr que sur le coup, quand vous faites traiter les Français de merde par certains coureurs, ça fait mal. Après, le public, on peut le comprendre aussi. Hein, ils ont été déçus par le cyclisme en général. Donc ça, là-dessus, encore, je peux comprendre. Mais ça vient de certains coureurs, non ?
Oui, parce que ça vient de certains coureurs. Alors, notamment Lance Armstrong, forcément, qui, à ce moment-là, va connaître l'apogée et va dominer, on va dire, le peloton. Ça te fait mal ?
Oui et non. Oui, ça fait mal au moment précis où c'est prononcé, mais en même temps, c'est un excellent stimulant. C'est un excellent stimulant. On n'a pas envie de lâcher le morceau. Moi, de ces moments-là, moi, j'ai jamais eu envie de renoncer. Jamais. Jamais. Là, dans ces moments-là, on remet le dossard. Enfin, moi, je remettais le dossard. J'étais de nouveau coureur et de nouveau, j'allais à la castagne, j'allais au charbon. Ça, c'est clair. Comme on disait tout à l'heure, je suis habité. Là, j'étais habité. Là. Ouais.
Même quand ça vient de ton ancien coéquipier Bernard Hinault ?
Ouais, mais Bernard, il est dans son truc. Je lui pardonne. Bernard, je lui pardonne.
Tu pardonnes pas à qui ?
À des gens qui auraient pu grandement changer les choses et qui ne l'ont pas fait. Voilà.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si Armstrong avait dit « Ok, on remet tout à zéro et on repart sur d'autres bases », ça aurait grandement aidé.
On va écouter Sandy Cazard, le meilleur Français à ce moment-là. Et lui, il le prend forcément très mal.
Ça nous a tous marqués, en quelque sorte, quand on avait des réflexions de grands coureurs. Bon, moi, je pense aussi à Bernard Hinault. Heureusement, j'ai pu parler avec lui de cette époque-là où les Français ne savent pas s'entraîner. C'était des critiques qui n'étaient pas toujours simples à prendre par rapport à ce qu'on savait. Bon, des anciens, à cette époque-là, ne voyaient pas ce qui se passait, ne voulaient peut-être pas l'entendre. Et c'est ça qui est c'est plus blessant.
Virage à 180 degrés des équipes françaises, même s'il y a quelques brebis galeuses, on va y revenir, mais virage à 180 degrés pour les Français, mais tu gagnes plus rien.
Pas grave, parce qu'on était dans la reconstruction de quelque chose, on refaisait les fondations de notre sport, quoi. Franchement, je suis assez fier de ce qui a été réalisé. Pendant longtemps, chaque été venu, le marronnier du dopage ressortait. Et là, on vient de vivre une année avec le coronavirus. Et moi, j'ai observé les attitudes et la détermination des différents sports par rapport à cette pandémie. Et je pense qu'on ne le souligne pas assez, donc je vais me permettre de le faire. Je pense que le cyclisme, dans la gestion de cette crise et dans la continuité de l'activité par rapport à cette crise, a été exceptionnel et exemplaire. Dans les moments difficiles, on sait resserrer les rangs. On sait resserrer les rangs. Et on a fait cause commune. Ça n'empêche pas qu'on n'est pas toujours d'accord, qu'on peut s'expliquer et autres, mais on a été capable de se régénérer et de se remettre en tenue de combat.
Quel discours tu tenais à tes coureurs sur l'après 98?
Un jour, un coureur m'a dit « Comment on va faire ?» Je lui ai répondu « Tu vas avoir mal aux pattes. » Voilà. Après, j'ajoute aussi une chose, souvent, mais pas que par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé d'être coureur cycliste. Vous n'êtes pas obligé d'être coureur cycliste. Donc à partir du moment où tu es coureur cycliste, tu fais ce que tu dois faire.
Et à ceux qui t'ont reproché justement de vouloir laver plus blanc que blanc le cyclisme, tu leur réponds quoi aujourd'hui ?
Je leur réponds même plus. Moi, je sais ce que... Enfin, quand on s'engage dans quelque chose, on s'engage. Comme une course. Moi, je reviens toujours à mes instincts primaires de coureur. On est engagé sur quelque chose, on fait ce qu'on a à faire pour aller vers le résultat souhaité.
RMC, la boîte à souvenirs,
la sortie de boîte.
La boîte à souvenirs avec Marc Madiot sur RMC. Nous allons maintenant sortir de la boîte avec l'interrogatoire, car parfois, Marc, quand on sort de boîte, on peut passer à la case interrogatoire. Est-ce que tu es prêt ?
Oui.
Le meilleur coureur avec qui tu as roulé ?
Inno.
Le pire coureur avec qui tu as roulé ?
Urs Fröller.
Pourquoi ?
Parce que c'était un tordu en course.
C'est-à-dire ?
Le peloton a eu affaire une fois à lui au Giro, le lendemain de la fameuse étape du Gavia, où on avait dit on se neutralise, on s'arrête au sommet d'un col pour enfiler les caouets et les doudounes avant de refaire la descente. Et on repartait. On était censés tous repartir ensemble. Et lui, il a filé entre les bagnoles et ils ont profité du moment où on s'habillait pour s'échapper alors qu'il aurait été dans le groupe Eto autrement. Donc voilà.
Tordu, en effet.
Tordu.
Le plus gros salaire que tu as proposé à un coureur?
J'ai jamais proposé de salaire exorbitant à des coureurs.
C'est-à-dire? On se rend pas compte dans le vélo?
Non, mais on est loin de ce qui existe dans le foot.
C'est quoi, c'est 10-20 000 euros par mois?
Ouais, voire.
Vraiment, j'en ai aucune idée.
Pour certains. Mais ouais, on est dans un des sports les moins coûteux tout en gagnant bien sa vie.
Ta plus grande fierté de patron d'équipe?
La fidélité de la Française des Jeux dans un premier temps, de Groupama dans un deuxième temps, et la fidélité de mon encadrement et de mes coureurs.
Ta plus grosse cuite, répondez Marc.
Ma plus grosse cuite, j'en ai eu plusieurs. Je m'en suis bien remémoré une hier. Deux concerts d'ACDC au Stade de France, où j'étais en compagnie de policiers qui étaient dans le même état que moi. Et on est rentré à la maison, j'ai pas pu me coucher, je suis resté assis, endormi sur le canapé jusqu'au lendemain matin.
Le canapé de Louis Ocagna?
Pas celui-là, non.
Le coureur le plus insupportable que tu as croisé?
Non, j'en ai pas là qui me viennent.
Non?
Non.
Même Armstrong?
Oui, on pourrait dire Armstrong, oui, si vous voulez.
c'est pas moi qui décide, hein. C'est votre interrogatoire, Marc. Je vous vois dans ces cas-là. Le coureur de ton équipe dont tu es le plus fier?
Ah, j'en ai deux ou trois. Enfin, deux. Je ne vais pas parler de ceux qui sont là en ce moment. Je pourrais dire Pinot, je pourrais dire Gaudu, je pourrais dire Desmar ou d'autres encore. Je vais plus m'attacher au passé de l'équipe. Je dirais deux coureurs, McGuy et Gilbert.
Philippe Gilbert?
Ouais.
C'est toi qui l'as lancé?
Ouais.
Champion du monde?
Ouais.
Pourquoi?
Coureur d'exception, le vrai coursier dans tous les sens du terme.
La plus belle course du monde ?
Roubaix.
Le pire souvenir sur un vélo ?
Le Gavia 88. Ce jour-là, je suis allé trop loin. On dit faut le coureur doit souffrir, doit... Ce jour-là, je suis allé trop loin et ça aurait pu mal finir.
C'est-à-dire ?
Parce que on était à plus de 2000 mètres d'altitude, en petit maillot manche courte dans la neige, la glace, la pluie, le brouillard. Et j'ai entamé la descente du col sans vêtements et là, j'ai fait une grosse connerie. Je me suis jamais remis totalement de cette période. À chaque fois que je retrouvais la pluie ou des conditions difficiles en course, après, je ne les supportais plus. Donc, je suis allé trop loin. J'ai mis 2 heures à pouvoir mettre un pied dans une baignoire à l'arrivée. Tellement j'avais froid. Quoi.
La dernière fois que tu as pleuré, Marc ?
La dernière fois que j'ai pleuré, une des dernières fois que j'ai pleuré, c'est pendant le confinement. On a eu la chance d'avoir... J'évoquais tout à l'heure d'avoir pu voir les images d'Ocagna à Orcières-Merlette, mais c'est pas ça qui m'a fait pleurer, c'est ma victoire dans Paris-Roubaix en 91. C'était la première fois que je revoyais les images, et surtout c'était la première fois que j'avais la chance de les partager avec ma famille, avec ma femme et surtout mon fils. Parce que lui, ma femme, elle connaît un peu mon passé cycliste, mais... Mon fils, lui, absolument pas. Il n'avait jamais eu l'occasion de voir d'image de moi en coureur.
Ça lui a plu ?
Il était troublé. Et c'est ce qui m'a mis la larme à l'œil.
Maintenant, l'interrogatoire, Marc, va être mené par tes proches. Tout d'abord, une question de Philippe Bouvet, journaliste L'Équipe.
C'était un grand coureur, Marc Madiot. Il a gagné une étape dans le Tour. Il a pas eu l'honneur de porter le maillot jaune, mais je voudrais lui demander s'il était capable sur le Tour de France de se transcender comme sur une course d'un jour et notamment le jour de Paris-Roubaix ou d'un championnat de France, parce que c'était pas que l'homme de Paris-Roubaix, c'était aussi l'homme des championnats.
Non, j'étais pas capable de me transcender sur le Tour.
Impossible.
Non, je le reconnais humblement. Non.
Elisa Madiot, ta nièce.
Salut Marc, c'est Elisa. J'ai une question qu'il va falloir que tu tranches définitivement. Renaser ou plutôt ?
Renaser.
Plutôt, c'est...
C'est mon lieu de résidence.
Voilà, mais sans aucun problème, on vote Renaser.
Oui.
Question, message plutôt, de Patrick Gauthier, le maire, monsieur le maire de Renaser.
Bon, bah Marc, salut, c'est Patrick. Donc pour moi, un des moments forts pour moi, ce fut vraiment l'inauguration du Vélodrome, moi en tant que maire, toi et Yvon en tant que... puisque nous donnions le nom à ce Vélodrome. Et voilà, parler de tes parents et notamment de ton papa, enfin pour qui, voilà, c'est vraiment été quelqu'un que je respectais, qui avait des convictions, avec qui on pouvait discuter. Je pense que c'est hyper important. Il a fait... Et tes parents ont fait beaucoup de choses pour toi, ça c'est connu, pour le vélo, il faut beaucoup faire avant de sortir. Et donc je voulais te dire ce mot-là et je suis vraiment fier de la carrière et de la hauteur dont tu as porté la commune et le territoire auquel tu es extrêmement attaché.
Oui. Le Vélodrome, oui. Ah oui, c'est une grande fierté ça. Ouais.
Et sympa aussi le mot pour les parents.
Ouais, vrai.
C'est un ami. C'est toujours bien d'avoir un maire comme ami, d'ailleurs. Yvon, ton frère a une question pour toi.
Quand est-ce que tu m'augmentes ?
Oui, t'as bien entendu. Non, ne fais pas celui qui l'a pas entendu. On peut la repasser, tiens, on va la repasser parce que je sens que t'as mal compris. Yvon, une question maintenant de ton frère.
Quand est-ce que tu m'augmentes ?
Alors là, je suis sûr d'une chose, il ne savait pas quoi poser comme question pour qu'il pose celle-là.
Bah, c'est peut-être un vrai ressenti, peut-être que tu connais pas si bien ton frère que ça. Peut-être est-il vénal, on ne sait pas.
Je pense pas.
Donc on lui répond pas, on lui dit rien. Les temps sont durs, on lui dit ça.
C'est pas toujours facile.
Une question de Frédéric Guédon, là, des anciens coureurs qui a gagné donc Paris-Roubaix en 97.
Marc, c'est Fred, j'ai une petite question à te poser. Je sais que tu es un passionné de Luis Ocagna, mais moi je pense que Merck était quand même plus fort qu'Ocagna. Qu'en penses-tu ?
Ah !
Alors,
mon cher Fredo.
Je pense que sur la durée, c'est vrai que Merck c'était le plus fort, mais sur un jour, sur une journée dans l'histoire du cyclisme, pour moi, la plus grande course du monde, toute course confondue, tout événement confondu, le plus grand jour de l'histoire du cyclisme, c'est Orsières-Merlette en 71. Voilà.
Et la victoire de Luis Ocaña.
La victoire de Luis Ocaña sur une journée. C'est cette journée, le passage. Et d'ailleurs, j'ai eu des frissons cette année quand le Tour est retourné à Orsières-Merlette. Voilà. J'avais revu les images au moment du confinement, que je n'avais jamais vu avant. Et d'y aller avec le Tour cette année m'a perturbé.
Pardon, mais Eddy Merckx, tu l'as revu, recroisé,
oui,
quelques temps plus tard.
Évidemment. J'ai une bonne relation avec Eddy Merckx.
Mais le rival de Luis Ocaña, je crois que déjà, tu lui as déjà un petit peu mis dans les dents, non?
Alors, on était dans une soirée assez bien arrosée avec Jean-Pierre Danguillaume, et il y avait Eddy Merckx. Et au bout de quelques verres, je me suis permis de dire à Eddy, tu es le coureur ou la personne que j'ai le plus détesté au monde à une certaine époque. Et il me dit pourquoi? Il me dit j'étais supporter d'Ocaña. Il me dit ouais, je comprends. Mais je dis maintenant que je te connais, t'es un mec bien. Donc bon, il n'y a pas de souci et j'aime beaucoup M. Merckx.
Une question de Cyril Guimard.
Bon, Marc, quand on aura fini avec ta carrière de directeur sportif, il y a une place très bonne pour toi. Le cyclisme en a besoin. Si tu étais président de la fédération, ce serait vachement bien pour le cyclisme français. Allez, on croise les doigts.
Président de la Ligue, déjà?
Plus.
Oui, plus, mais déjà président
de
la Ligue.
J'ai été président de la Ligue pendant 12 ans et c'est largement suffisant.
La Fédé?
Non.
On y va?
Non.
Pourquoi?
Parce que je pense qu'il faut aujourd'hui renouveler les cadres. Et il faut partir avec des gens neufs dans tous les secteurs d'activité. Alors, je ne sais pas quel âge a Michel Callot, mais non, je pense qu'il faut, partir... avec des gens neufs.
Ta femme Jennifer a une question.
Salut chérie, écoute, je vais te poser une question. Quand est-ce que tu peux m'accorder un peu de temps pour aller acheter les canapés? Merci, bisous.
Oui. les canapés ont souffert à la maison. Elle veut changer les canapés. Moi, je les trouve très bien. Donc.
Parce que Luis Ocaña s'est assis dedans. Surtout.
Ah non, un peu pas celui-là. Celui-là, il est invendable, intransférable, indéménageable. Celui-là, il est en Mayenne et il ne bougera pas. Mais les autres, oui, ça peut bouger.
Bon,
ça
on accorde un petit peu de temps à Jennifer pour changer les canapés.
Oui.
Il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu dans cette émission. C'est qui, selon toi?
Quelqu'un qu'on n'a pas entendu? Pas mon fils.
Matisse?
Oui.
10 ans?
Oui.
Un petit message pour son papa.
Quoi. Ah.
Coucou papa, c'est Matisse. J'espère que tu vas bien. Je t'aime très fort. Et quand t'es pas là, tu me manques beaucoup.
Ah.
Bisous.
C'est sympa.
Bah ouais. Ouais.
Il a envie de faire du vélo, le petit?
Il en fait, mais... J'attends de voir s'il aura la hargne. Mais pendant longtemps, il a dit je ne ferai pas de vélo pour se mettre en opposition avec son père. Puis maintenant, il commence à faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'il vient vers ce que je regarde, ce que je suis. Parce que là, par exemple, maintenant, il regarde les Grands Prix de Formule 1, il regarde les courses. Et en fait, ce qui est surprenant avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'il ne regarde pas les courses et qu'il ne suit pas trop ce qui se passe. Et en fait, il est au courant de tout. Donc, il fait semblant de ne pas suivre et de ne pas regarder, mais il écoute et il regarde. Donc, ça me plaît bien. Et j'espère pouvoir l'emmener avec moi sur les courses, rien que tous les deux, juste pour essayer de lui transmettre quelque chose. Voilà. De l'envie, notamment. L'envie et puis de... Ouais, j'espère que... Moi, j'avais la rage quand j'étais coureur. J'ai la rage comme patron d'équipe et j'espère qu'il aura la rage dans ce qu'il fera. Ça, c'est ce qui lui permettra d'être plus déterminé.
Merci beaucoup Marc Madio pour cette boîte à souvenirs. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, pour son travail considérable. Notre réalisatrice Julie Dereau. Marc, tu as débuté cette émission, tu vas pouvoir la terminer. C'est à toi, face aux auditeurs.
Ça a été un bon moment. Quelques petites surprises, mais pas trop, parce qu'en même temps, je m'imaginais bien ce qui allait être évoqué. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère surtout que ça vous donnera envie de regarder et de suivre les courses de vélo avec un peu plus d'attention et encore un peu plus d'intérêt peut-être pour les coureurs de l'équipe Groupama FDJ qui sont volontaires, déterminés et qui sont des bonnes et belles personnes. Voilà. Si on parvient à cela, si quelques-uns d'entre vous se convertissent au cyclisme et à l'équipe Groupama FDJ, ce sera parfait.
RMC, la boîte à souvenirs.